bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission de radio tout en français sur Mix 92.6 avec Aline Badister et Elise Lines.
Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille et sur Instagram Bouche à Oreille UK.
Ouvrez vos oreilles!
Et ce soir, nous avons le grand plaisir de recevoir Hervé Hérault à Bouche à Oreille. Journaliste de formation, Hervé a collaboré pour Le Progrès, l'Union de Reims et le Journal du Textile. C'est en 2001, alors qu'il est expatrié au Mexique, qu'Hervé fonde les éditions lepetitjournal.com, dont il est également le président. On a vraiment peine à croire aujourd'hui que tout a débuté avec une newsletter envoyée à une centaine d'amis et connaissances depuis sa chambre. Avec 74 éditions dans le monde, dont celle de Londres, dans laquelle Élise et moi-même avons eu l'honneur de paraître récemment, lepetitjournal.com compte plus de 2 millions de visiteurs par mois sur les 5 continents. C'est le média leader pour les Français et francophones de l'étranger. On ne pouvait donc pas manquer l'occasion d'inviter Hervé sur les ondes de Mix 92.6 pour partager cette belle aventure avec nos auditeurs francophones et francophiles. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Aline, bonsoir Élise, merci pour votre invitation.
Eh bien, bienvenue à Bouche à Oreille, on est vraiment ravis de vous accueillir. Vous êtes, il faut le dire à nos auditeurs, à Nice, donc il fait un tout petit peu plus chaud qu'ici. Et on espère que vous allez nous envoyer du soleil au cours de cet entretien. Alors, on voudrait d'abord savoir ce qui vous a inspiré à créer lepetitjournal.com.
À la base, moi déjà, je suis journaliste de formation. Hein. J'ai fait le CFPJ, puis j'ai travaillé, comme vous l'avez dit, dans plusieurs journaux en France, en presse régionale, en presse professionnelle. Et il se trouve que pour des raisons personnelles, en fait, j'ai suivi mon épouse qui a été envoyée comme expatriée au Mexique. On est parti en 1998. Et j'avais déjà manifesté beaucoup d'intérêt pour l'essor d'Internet, puisque c'était vraiment c'était les débuts. Et quand je suis arrivé au Mexique, je me suis reconverti en fait dans la création de sites Internet. Alors c'était vraiment le tout début. Je dirais que je savais pas faire grand chose, mais j'étais pas tout seul. C'était pareil pour tout le monde. Donc du coup, j'ai réussi à décrocher des contrats, avoir différents clients. Et à un moment, j'ai gagné un contrat avec l'ambassade de France à Mexico pour la création d'une revue en ligne. L'idée, c'était de présenter, on va dire, les grands débats de société qui s'agitaient en France, de les présenter au public mexicain. Donc, en faisant une revue de presse, on va dire, d'articles de grands journaux français, les traduire en espagnol et de les présenter sur Internet au public mexicain. Et alors moi, je m'occupais pas de la traduction, mais je m'occupais de la sélection de la revue de presse, de la mise en avant de l'information et puis évidemment du site web que je faisais avec mes petites mains dans ma chambre. Et j'ai réalisé en fait que c'était un média extraordinaire et puis j'ai commencé à apprendre vraiment depuis le code, même si je suis pas du tout informaticien. Et j'ai vu un petit peu tous les métiers qui s'y rapportaient et parallèlement, je me rendais compte en fait que très probablement on allait peut-être pas faire toute notre vie au Mexique, qu'on allait rebouger et que tout ce que je menais comme aventure professionnelle, vraiment je m'éclatais, ça se passait plutôt très bien, mais c'était plutôt à l'époque des one shots, c'est-à-dire c'était des contrats, je vendais une mission, je faisais le site. Alors c'était très souvent en fait la plaquette papier qu'on mettait sur l'internet. Il n'y avait pas vraiment d'actualisation. Je vous parle de ça, c'est vraiment la préhistoire. On dirait que je suis très, très vieux. Et en fait, voilà, ça. Donc, du coup, je me suis dit, ça serait bien quand même que j'ai un projet à moi aussi, que je puisse emmener. Et parallèlement, je voyais en fait comment vivait la communauté française à Mexico. Et je voyais qu'en fait, on manquait d'informations. Alors, bon, l'espagnol, c'est pas très compliqué. Hein. On a les grands journaux nationaux mexicains, Reforma, etc. Mais bon, Mexico, c'est une énorme ville. Et puis, on perd quand même ses repères quand on vit à l'étranger. Donc, très souvent, voilà, on avait du mal à comprendre le pays dans lequel on vivait, à savoir ce qui s'y passait, ou alors on ratait des trucs. Donc, je trouvais que c'était dommage. Et puis, aussi à cette époque-là, donc là on parle vraiment en 99, il y avait également maintenir le lien avec la France. Parce qu'aujourd'hui vous êtes n'importe où dans le monde et vous avez, vous êtes une radio, donc vous pouvez évidemment en témoigner, mais enfin vous pouvez regarder le journal de TF1, écouter France Inter, enfin voilà, il y a une connexion à la France qui est quand même complètement, complètement différente. Mais à l'époque, vraiment maintenir le lien était important. Et puis il y avait toute cette dimension, un peu d'information sur les thématiques de l'expatriation, que voilà, on était parfois mal ou pas ou peu informé. Alors une fois de plus, il faut bien revenir au fait que c'était quand même les débuts d'Internet, hein. C'est-à-dire que Google a été créé un an avant, Facebook n'existait pas, enfin bref, Wikipédia n'existait pas, enfin ça paraît, donc ça a été assez précurseur et c'est ce qui a fait finalement le succès au démarrage en tous les cas. Et donc voilà un petit peu, j'ai eu l'idée de créer ce journal parce que je voulais avoir mon projet que je puisse emmener et puis parce que je voyais que ça correspondait à un besoin et que l'expérience que j'avais eue à travers le projet de média avec l'ambassade avait été un succès et que à partir de sa chambre, je me suis dit on peut toucher des milliers de personnes et je me suis lancé.
Vous êtes lancé. Et donc, on a l'impression que c'était quand même un peu une évidence au départ que vous alliez conquérir le monde. Alors, si vous saviez que vous alliez quitter le Mexique et vous installer ailleurs, est-ce que vous avez dit dès le début, bon, ben, où que je sois, de toutes les façons, j'ai cette formule maintenant et on va continuer et on va y aller? Ou est-ce que c'était plus organique comme programme?
En fait, c'était plus un souhait personnel, disons que, et familial, puisque donc du coup avec mon épouse, on s'est dit on va au Mexique, c'est une super aventure, une découverte, et on verra bien, et puis on va rester un an, deux ans, finalement on est resté sept ans, on a eu deux enfants là-bas, donc voilà, ça, c'était plus au-delà de nos projets, et ça a été pareil pour le journal, j'imaginais pas du tout, moi j'étais salarié en France, j'imaginais pas du tout devenir un jour patron de presse, entrepreneur, et je suis plus parti du produit en fait, c'est-à-dire d'un journal. Je pense que j'aurais pas créé une boucherie ou un autre business. J'ai créé un journal parce qu'en fait c'est ce que je savais faire et c'est ce que je connaissais en fait. Et du coup, ça a été une bonne idée. Alors, ce qui est drôle effectivement, c'est que j'ai tout de suite eu une vision une ambition assez élevée et une vision assez large. Parce qu'en fait, dès le début, je me suis dit, enfin, si ça marche à Mexico, ça marchera partout. Donc, en fait, sur les premières maquettes du site, il y avait des petits icônes avec marqué, je sais pas, Stockholm, Bombay, Rio, je sais pas quoi, Sydney. Ça menait à rien, il y avait que Mexico. Mais bon, on a fait. Et puis, si vous m'aviez demandé à l'époque comment j'allais faire, j'en avais pas la moindre idée. Mais je voyais bien que le média par rapport à un média, parce que moi je viens de la presse papier, la grande différence, c'est qu'en fait, quand on édite un article à Mexico, alors ça paraît une évidence aujourd'hui, mais c'était pas une évidence en 99-2000, puisque le journal a été lancé en janvier 2001, pardon. Et c'est en fait un. Ça peut être lu partout. Alors que si j'avais dû l'imprimer, ce fameux journal, déjà j'aurais pas pu en faire un quotidien. Et en plus, j'en aurais diffusé peut-être 200 dans la communauté française à Mexico une fois tous les mois. Donc, ça aurait été un bulletin comme ça existe et comme ça existait. Ça n'a rien de péjoratif. Mais là, du coup, le média en lui-même permet une démultiplication qui est folle et encore qui a été encore accélérée évidemment dans l'histoire. Du journal et d'Internet, pas parce que moi j'ai suivi le mouvement, mais par la création des moteurs de recherche. Le moteur de recherche existait déjà, mais en tous les cas, son fulgurant développement, qui fait qu'on peut nous trouver partout aujourd'hui, évidemment, en faisant une recherche. Et puis, par les réseaux sociaux dans un deuxième temps. Donc, il y a eu vraiment deux grosses étapes qui ont complètement modifié la distribution de l'information, ce qui n'est pas propre au petit journal. Alors, nous, on est ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un journal qui est né de l'Internet. Mais en fait, la presse a été, toute l'information, même plus que la presse, toute l'information, elle a été complètement chamboulée par cette révolution.
Ouais, on voit ça maintenant dans tous les médias, et vous avez en quelque sorte été les pionniers bien avant que la presse papier maintenant souffre pas mal de cette révolution numérique, on va dire.
Moi, j'avais pas réalisé, vous êtes un quotidien en fait.
Absolument, on est quotidien, du lundi au vendredi. On publie parfois un peu le week-end aussi. On achète du flux à l'agence France Presse pour tout ce qui est breaking news, les informations générales, donc ce qui se passe, je sais pas, en Ukraine, en Israël, Macron, le Paris Saint-Germain, enfin voilà, bon, tout ce qui peut se passer, on va dire. Je crois qu'ils vendent ça, c'est 50 dépêches des plus grandes infos de la journée en France et dans le monde. Donc, avec un prisme un peu plus français, mais quand même, voilà, bon, ça suit aussi bien Trump que je sais pas, des débats qui se passent en France, la grève des agriculteurs actuellement, par exemple. Donc, ça, ce qui fait que le site est toujours à jour sur ces parties-là. Après, nous, on va publier dans toutes nos éditions et depuis Paris, des articles qui sont des articles magazine relativement intemporels. Je dis relativement parce que bon, il y a quand même des actualisations qui sont nécessaires ou parfois des articles, bon, voilà, qui ont une durée de vie très très longue. Et puis, on va publier des articles qui sont plus chauds parce qu'ils sont relationnés à une actualité locale, soit parce que c'est relationné à un événement par rapport à un fait de l'actualité locale, un fait de société, un événement en particulier. Ça peut être aussi bien des élections qu'un concert, qu'un match de foot, que je sais pas, un truc qui se passe à la télé, qu'un accident d'avion. Enfin voilà, donc c'est très vaste. Mais et en fait, j'ai choisi dès le début le quotidien parce que c'était un choix ambitieux et difficile, puisque en fait, évidemment, produire au quotidien, c'est quand j'ai lancé le journal et même encore aujourd'hui, c'est un gros défi. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, on publie 25 000 articles par an aujourd'hui. C'est juste colossal. Mais c'est aussi ce qui a fait le succès, et c'est ce qui fait le succès du petitjournal.com. Parce que je pense que ça apporte à la fois... la marque, elle est présente tous les jours pour, pas tous nos lecteurs, mais pour beaucoup de nos lecteurs. Tous les jours, il y a des choses à lire. Donc, ça veut dire que vous y revenez plus régulièrement. Et on est quand même sur une niche de marché. C'est quand même un marché qui est très restreint. Donc, en fait, si les gens venaient une fois par mois, en fait, il n'y aurait pas de modèle économique derrière non plus. On produit beaucoup, mais du coup, on crée beaucoup d'inventaires publicitaires et on crée également de la fidélité. Parce que, en fait, les gens, le petit journal, ils rentrent vraiment dans leur quotidien, dans leur vie, à partir du moment où ça leur plaît. Et comme on est aussi un généraliste, parce qu'en fait, ce qui nous unifie, c'est la langue française. Mais en fait, on ne va pas parler que de politique ou que de culture ou que de sport, peu importe. On va parler de tout. Donc, de tout, beaucoup de choses, de très, très divers. Donc, ça veut dire que il y a peut-être des sujets qui vont moins vous intéresser, ou il y a des jours où vous allez ouvrir le journal, alors soit vous n'avez pas le temps, soit il y a peut-être quelque chose qui... Bon, voilà, c'est pas un sujet qui vous intéresse en soi, mais le lendemain, en revanche, vous allez trouver un sujet qui va plus vous convenir. Donc, du coup, chacun va y faire un petit peu sa sauce. Certains vont venir une fois par semaine, certains vont venir tous les jours et tout lire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ce rythme, il est exigeant, mais c'est une des raisons qui explique notre succès. Vraiment, c'est ce qui rejoint aussi la proximité, en fait. Parce que nous, notre clé, c'est notre force, c'est la proximité. Et sur Internet, je veux dire, si on publie tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, on n'a pas la même proximité, en fait. On ne peut pas rendre les mêmes services, en fait, qu'on apporte avec nos contenus.
Alors, tout à l'heure, dans l'introduction, on a dit que vous étiez président du groupe. C'est-à-dire que vous assurez la direction générale et vous êtes responsable de la publication. Alors, on se dit, à vous écouter, que ça ne doit pas être une mince affaire quand même avec 74 différentes éditions. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un fil rouge à travers les éditions? Il y a une marque, on va dire, petit journal, des valeurs. Et comment est-ce que vous les conciliez avec la couleur locale, ce qui se passe, parce que Pékin, c'est pas Londres, etc. On est un peu curieux de savoir ça.
Bien sûr. Alors déjà, la première chose, c'est que je suis pas tout seul. Hein. On est une équipe de 12 personnes à Paris. Et après, du coup, j'ai un réseau de correspondants qui sont des partenaires indépendants qui exploitent la marque et le concept lepetitjournal.com. Alors il y a deux exceptions, dont Londres, où ce sont mes équipes. Et New York, où c'est également les équipes lepetitjournal.com, donc du siège en fait, qui exploitent l'édition, c'est-à-dire qui produisent les contenus, développent l'audience et commercialisent l'inventaire publicitaire. Puisqu'on est, vraiment, la base de notre modèle, c'est que c'est de la presse gratuite financée par de la publicité. Nos partenaires, en fait, on attend d'eux, donc du coup, En fait, vous avez raison, tout est sous notre marque, tout est sous la marque lepetitjournal.com. Donc, vous choisissez votre ville avec le petit onglet « Choisir sa ville ». Donc, si vous êtes à Londres, vous allez plutôt choisir Londres. Si vous êtes à Bangkok, choisir plutôt Bangkok. Et pareil, si vous êtes à Santiago. Et en fait, on a un programme de formation. Donc, on forme tous nos partenaires de façon à ce que donc on a une charte éditoriale, on va les former aux outils bien sûr, on va leur dire ce qui convient de faire et ce qui convient de pas faire, et puis on va les suivre aussi éditorialement, ce qui fait qu'en fait l'ensemble des contenus sont relus. Donc c'est un gros travail, mais c'est évidemment indispensable parce que nous on se bat pour la qualité. Ça c'est la première chose vraiment sur laquelle on insiste. Alors j'espère qu'on y arrive, et peut-être il y a des jours où on y arrive plus ou moins, mais en tous les cas c'est vraiment un objectif qu'on se fixe, parce qu'on part du principe que c'est pas parce qu'on est gratuit que les gens nous lisent, c'est parce qu'on fait un bon journal. Sinon les gens, de l'information gratuite il y en a partout, il y a de l'information, il y en a énormément, ou payante aussi bien entendu. Donc en fait c'est pas parce qu'on est gratuit que les gens nous lisent, c'est parce qu'on donne des bonnes infos au bon moment, que c'est bien écrit avec des bons angles, qu'on apprend quelque chose quand on est sur lepetitjournal.com, qu'on trouve l'information qu'on cherche ou qu'on découvre de l'information qui nous intéresse. Donc ça c'est vraiment la clé de... C'est vraiment le point de base, et on se bat pour vraiment faire le meilleur journal possible tous les matins. Donc, on a mis en place évidemment des relectures, une charte, des formations, enfin voilà, tout un suivi avec une bonne organisation qui fait que je crois qu'on y arrive, même si on essaie toujours de placer la barre plus haut. Le deuxième point, c'est en fait les types de contenus. Donc, on va trouver dans toutes les éditions, finalement, on va retrouver trois types de contenus. Alors, il y a évidemment des couleurs locales, mais je vais vous expliquer finalement, c'est assez facile à comprendre. Le premier, c'est mieux comprendre le pays où on vit. C'est-à-dire que c'est un journal à destination du public français et francophone, puisqu'il est tout en français, donc il faut parler le français pour le lire. Donc, évidemment, on est lu par en grande partie des Français expatriés, mais aussi des francophones. Et puis, quand je dis francophone, alors évidemment, je pense les Belges, les Suisses, les Maghrébins et d'autres, mais je pense beaucoup, en fait, aux locaux. Donc, ça peut être évidemment des Anglais qui parlent français, ça peut être des Italiens qui parlent français, des Roumains, il y en a beaucoup, ou des Thaïlandais, il y en a moins, mais il y en a aussi. Donc voilà, donc ça, c'est ce public qui est aussi très important pour nous. Et le but du journal, ça n'a jamais été de rester franco-français, c'est pas le journal des ragots de la communauté française, c'est vraiment de s'ouvrir au pays où on vit et de s'intéresser à ce qui s'y passe. Donc là, on a vraiment une mission de décryptage, de mieux comprendre son environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sociétal? Je sais pas, il y a un nouveau chanteur qui est hyper à la mode, on va faire son portrait, il y a une expo dans tel musée, il y a un sujet, je sais pas, il y a un changement de loi, il y a des grèves. Donc, c'est vraiment mieux comprendre quel est son environnement, qu'est-ce qui se passe en fait. Le deuxième point, c'est s'intéresser à la communauté française. Donc, que font les Français installés localement? Donc là, pareil, c'est à tous les niveaux. Donc, évidemment, les institutionnels, ambassades, consulats, lycées français, chambres de commerce, accueil, toutes les associations. Donc voilà, on leur sert de relais parce qu'en fait, on est les seuls qui sont transverses. Chacun va éditer ses informations pour son compte, pour sa communauté. Mais en fait, le petit journal peu commun, on n'est pas les seuls. Mais on remplit ce rôle, en fait, finalement, d'aller au-delà. Quand l'Alliance française organise une exposition et qu'elle communique sur sa base, nous, on va communiquer sur une base qui est beaucoup plus large et on va ramener davantage de public. C'est un exemple. Donc, on travaille comme ça, mais on fait aussi des portraits de... Voilà, on va s'intéresser dans quoi investissent les grandes entreprises, des portraits d'entrepreneurs qui montent des boîtes, des startups, des artisans, des restaurateurs, des boulangers, ça y en a partout, des coiffeurs aussi, des sportifs. À Londres, on en a pas mal, des artistes bien sûr, qui sont résidents, qui sont de passage. Donc c'est vraiment aller à la rencontre de notre public, notre cœur de public, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans cette communauté française. Alors évidemment, à Londres, elle est immense. C'est pas la même chose à Bangkok et Mexico que je connais, par exemple, même si elle est relativement importante. Donc à Londres, elle est à la fois immense et très diluée, parce qu'en fait, du coup, c'est quasiment, on dit souvent que c'est quasiment, je crois que c'est la 7e ville de France ou un truc comme ça. Donc du coup, des Français, il y en a partout, mais à la fois, il y en a nulle part, parce que, bon, à part à Southend quand même, mais sinon, voilà, ils sont quand même très dilués. Donc, voilà, l'idée, c'est de s'intéresser aussi un peu à tout le monde, à ces profs de français, à ces gens qui mènent des actions, voilà, ces gens qui font de la radio en français dans un programme francophone sur une radio anglaise. Donc voilà, c'est d'aller vers toutes ces initiatives. Et le dernier point, c'est vraiment toute la dimension d'information service pratique pour faciliter la vie au quotidien de nos lecteurs. Donc ça commence par très souvent, et là je pense que pour l'Angleterre, vous allez vite comprendre, les formalités administratives, donc les visas, les settled status, etc. Voilà, tous ces articles qui sont, quand la loi change, là, chez vous, la loi a changé, donc du coup, c'est une dimension très importante. Mais enfin, de toute façon, dans tous les pays, il y a quand même des règles. Donc, celles-là, on les décrit. Après, on va avoir des articles sur trouver un travail, passer un entretien. On a des articles sur où habite, où se loger, la santé, comment se soigner en Angleterre, mais c'est pareil, c'est aussi comment se soigner en Chine, comment se soigner en Thaïlande, ou comment se soigner ailleurs. Donc en fait, c'est des choses qu'on décline, et c'est des articles qu'on appelle de longue traîne, donc evergreen, parce qu'en fait, ils ont une durée de vie très longue, et d'actualité vont faire des pics, forcément, parce que ça suit une actualité. Puis après, ils vont rester, parce qu'ils restent archivés, mais ils ne vont plus ressortir. En revanche, ces articles-là, les gens vont les chercher où sortir à Londres, où me loger à Londres, les 10 meilleurs musées à visiter en une semaine à Londres, déménager, conduire à Londres. Voilà, ça, par exemple.
Ça, c'est une vaste question.
Ça, c'est un super article. Donc, voilà. Et ça, en fait, c'est un peu la même chose. Alors, c'est pas, les réponses ne sont pas les mêmes, puisque à Londres, on conduit de l'autre côté, mais on peut faire le même article à Sydney.
Ouais, donc il y a un fil rouge dans ce que vous faites. Ouais.
Après, on laisse beaucoup de latitude, en fait, à nos correspondants. C'est nos représentants sur place, mais c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui sont au sein de la communauté française, c'est eux qui vivent dans le pays, qui le connaissent parfois depuis des années, qui sont bien implantés. Donc, du coup, nous, très rarement, on leur passe commande. Parfois, on voit passer un truc, on dit, tiens, est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu vas traiter ce sujet? Mais la plupart du temps, en fait, pas la plupart du temps, 99% du temps, c'est eux qui s'emparent et qui proposent les articles et qui font les articles parce qu'ils savent que c'est un sujet de débat dans la communauté française, parce que c'est un centre d'intérêt, parce qu'il y a une vraie actu forte, parce que voilà, où ça va intéresser notre public.
Hervé, vous avez créé il n'y a pas très longtemps un prix qui s'appelle le Trophée des Français de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, les Trophées des Français de l'étranger, je les ai créés en 2013 à Paris pour récompenser et mettre en avant des Français qui réussissent à l'étranger dans différents domaines, que ce soit de l'art, l'entrepreneuriat, l'humanitaire, l'éducation. Parce que, en fait, quand je suis rentré de l'étranger, j'ai été assez déçu et surpris en France de voir que nos parcours de Français à l'étranger, ils étaient peu valorisés, voire même plutôt, il y avait plutôt un expat bashing. Quand on parle des Français à l'étranger en France, c'est qu'on parle d'exilés fiscaux. Voilà, c'est à peu près, on est réduit à ça ou à des gens qui se la coulent douce au soleil. Moi, en ayant vécu 13 ans à l'étranger, puisque j'ai vécu 7 ans au Mexique et 6 ans en Thaïlande, j'ai vu que c'était pas le cas. Et puis surtout, dans les colonnes du petitjournal.com, enfin, tous les jours, sur notre site, dans toutes les éditions, on fait des portraits de gens qui font des choses incroyables. Soit ils lancent des entreprises, soit ils développent des projets, soit ils font de l'humanitaire et du caritatif, soit enfin ils créent des ponts entre les cultures, des artistes qui montent des expos, des concerts, enfin des choses insensées. Et je me disais, en fait, c'est quand même dommage que ces parcours-là, ils soient pas connus en France et pas, parce que finalement, Petit Journal, il est surtout connu à l'étranger, et que on soit pas valorisé quelque part, parce que c'est aussi l'image de la France. C'est aussi des gens qui apportent, qui sont des ambassadeurs en fait de notre pays. Et du coup, j'ai été soutenu par la ministre déléguée aux Français de l'étranger à l'époque, Hélène Conway-Mouret, qui sénatrice, qui m'a proposé de nous accueillir au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères, dans les salons du Quai d'Orsay. Et on a fait une première édition en 2013. Au mois de mars prochain, normalement, ça sera la 12e édition. Donc c'est voilà, aujourd'hui c'est un projet qui a pris énormément d'ampleur. Pour tout vous dire, c'est quasiment 600 candidatures par an avec des gens dans, je crois que c'est 90 pays. Je crois que c'est à peu près ça, mais c'est juste énorme en fait. On a des partenaires comme Le Monde, Courrier International, France 24, donc RFI. Donc ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Et on a décidé en 2019 de le délocaliser, enfin, c'est-à-dire d'organiser aussi, pas de le délocaliser, mais d'organiser aussi des trophées, mais en région. Alors, premier trophée en Asie à Singapour, et puis pareil à Dubaï pour le Moyen-Orient, à Madrid en Espagne pour les trophées des Français d'Espagne. Le Covid nous a un petit peu ralenti, puisque pendant 2-3 ans, on n'a pas pu faire on a réussi à faire à Paris, mais on n'a pas réussi à faire en région. Et depuis l'année dernière, on a repris. Et pour la première fois en 2023, en novembre, du coup, on a organisé les premiers trophées des Français du Royaume-Uni, donc à Londres, avec une centaine de personnes invitées à la résidence de France, sous la houlette de monsieur le consul général, donc la résidence de France de madame l'ambassadrice. Et ça a été un très beau succès avec vraiment des lauréats de très grande qualité, une magnifique cérémonie. Et je pense que vraiment on peut être fier d'avoir remis ses prix et d'avoir mis en avant surtout et mis en lumière ces cinq lauréats. Et on prévoit déjà évidemment de faire une deuxième édition à Londres peut-être en juin ou en tous les cas d'ici la fin d'année, bien entendu.
La vie est lancée. Nous, on avait eu la grande chance à Boucheret de recevoir deux des lauréates, mais avant qu'elle soit lauréate, donc Candice Desmet et Cilia Rousset-Carpentier étaient passées au studio de Boucheret. Comme quoi, on a du flair pour
vous avez bien pour elle mérite d'être. C'est extraordinaire ce qu'elles font.
Oui, c'est fantastique. C'est fantastique. On pourrait en parler pratiquement toute la nuit. C'est vraiment. Ça nous a fait très, très plaisir de vous recevoir, Hervé, puis d'en apprendre plus sur ce magnifique. J'ai envie de dire projet, mais c'est plus qu'un projet. C'est une institution maintenant, le petitjournal.com. On lui souhaite longue vie. Avec qui sait de nouvelles éditions dans des nouveaux coins du monde. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. Merci infiniment d'être passé nous voir.
Mais merci beaucoup, Aline et Élise. Merci pour votre invitation. C'était un grand plaisir. Et puis, merci à vos auditeurs et à très bientôt sur lepetitjournal.com aussi.
Au revoir.
Au revoir.